LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Donc là, bon, moi ce que j'adore dans ces lieux-là, vous l'avez compris, c'est vraiment les textures, vraiment voir le temps qui est passé. Et donc là, on est dans une pièce où on a le mariage, on va dire, de peinture écaillée, de vieux papier peint qui se déchire. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Donc là, je vais faire une petite photo.
C'est quand même pas très loin de tomber, ça. Hein.
Ouais. Alors ici, en l'occurrence, le plafond, il est pas top.
Est-ce que vous revendiquez le terme urbex?
Oui, pourquoi pas, parce que ça, enfin, c'est un terme qui est aujourd'hui très médiatisé, qui est très connu, et en un clin d'œil, beaucoup de gens savent de quoi on parle. Après, ce qui est dommage, c'est que oui, le terme urbex, on pense souvent, les gens pensent souvent aux vidéos YouTube, de vidéos un peu sensationnalistes, de gens qui se filment beaucoup en visitant le lieu, qui utilisent le lieu comme un simple décor pour se mettre en valeur eux.
Vous êtes plutôt de la frange discrète.
Moi, je suis plutôt de la frange discrète et je viens sur le lieu et je fais des photos et je fais un texte. Mais l'idée, c'est pas de me mettre en scène moi. C'est vraiment juste de faire quelque chose de calme et de lent. Pour moi, l'urbex, c'est ça, c'est quelque chose de lent. On avance lentement dans le lieu, par précaution parce que c'est dangereux, mais aussi pour profiter de chaque détail, pour dire tiens, c'est marrant là, on a trouvé un petit dé, là, on a trouvé un vieux livre. Vraiment comme on le ferait comme personne qui vient sur un lieu comme une chasse au trésor en fait. On sait pas ce qu'on cherche, mais si on trouve quelque chose, on est content.
Ça, c'est les années, je sais pas, 80, soit. C'est très très vieux en tout cas.
Ouais, j'adore. C'est à l'état de débris. Hein, quand
même. Ah oui, bah c'est ça qui me plaît, moi. Enfin, le même mur neuf, je l'aurais pas pris en photo. Hein. Ce qui me plaît, c'est vraiment le côté décrépit.
Déshérence. Olivier Chaumel, François Teste. Aujourd'hui, voyage en urbex, en toute clandestinité.
Moi, une expédition urbex, je la prépare évidemment la veille. Je décide pas le matin, tiens, je vais aller me faire un petit urbex dans la région. Donc, du coup, moi, j'ai un sac, hein, d'ailleurs, qui est là dans la pièce, parce que je reviens d'une expédition où il y a tout ce qui est nécessaire pour l'urbex. Alors, d'abord, rien n'est fait pour être visité. Donc, il y a des clous partout, il y a du fil de fer, il y a des morceaux de verre, vous pouvez vous faire mal tout le temps. Donc, il faut être bien habillé. Donc, des grosses chaussures, un pantalon de toile, jean, ou en tous les cas, quelque chose de solide. Et généralement, un blouson un peu épais, comme ça, si vous vous cognez ou si vous êtes piqué par quoi que ce soit, vous avez moins de chances de vous faire mal. Il faut aussi penser à un bonnet si vous passez dans des zones de végétation très dense, hein, pour pas risquer de vous faire mal à la tête, ou si vous passez à travers, certains vont même jusqu'à porter des casques. Moi, je vais pas là, mais on peut, pour certains cas, ça peut protéger de chutes de pierres éventuelles. Donc, un équipement d'abord personnel, un peu solide. Fondamental ensuite, les torches. Parce qu'évidemment, les lieux les plus intéressants sont sombres, sont dans le noir, hein, ou sinon vous ne verrez que la surface. Dans les grandes usines, moi, j'ai fait des caves de brasserie où ça n'en finit pas. Donc, si votre torche lâche, vous êtes vraiment dans l'embarras. Il faut ensuite tout un ensemble d'outils pour éventuellement passer des petits obstacles, des petites trousses d'urgence, de quoi aussi boire longtemps, parce que vous savez pas combien de temps va durer l'urbex, ça peut durer très longtemps. Hein. Il y a des urbex, moi, qui ont duré 5, 6, 7 heures, donc il faut pouvoir s'alimenter, il faut pouvoir boire, surtout l'été, hein, ça devient, c'est assez physique, hein, parce qu'en fait, il y a plus d'ascenseurs en général, et puis s'il y en a, je vous conseille pas de les prendre, parce qu'ils sont assez dangereux. Donc du coup, vous montez des dizaines d'étages, hein, facilement. Donc vous voyez, il faut se préparer à tout ça. Et puis ensuite, il y a la question aussi évidemment de la photographie. Hein, donc là, chacun prendra le matériel qu'il veut. Mais vous voyez, ça demande à être réfléchi en fonction du lieu où vous allez. Et moi, je réfléchis toujours à quel obstacle je vais pouvoir me confronter. Et donc, je mets des vêtements, un équipement en fonction de cela.
Il y avait à Lille, dans un quartier populaire, une ancienne coopérative ouvrière guédiste, l'Union, comprenant notamment deux brasseries, une où on fabriquait la bière, l'autre où on la buvait, une imprimerie et un joli théâtre à l'italienne dont les sièges et le piano restés en place sur la scène étaient couverts de fientes de pigeons à la faveur de ce que la verrière était cassée. Dans la cabine technique, on trouvait deux énormes projecteurs à arc électrique rouillés et de nombreuses bobines de pellicules de cinéma, certaines partiellement brûlées. On y accédait sans trop de difficultés, en escaladant un portail pas bien méchant. Ce lieu était fascinant. Dans les coursives de l'imprimerie, il y avait deux palettes sous film plastique de « À gauche », un chef-d'œuvre de littérature politique signé Pierre Mauroy. La coopérative, ou ce qu'il en restait, a fini par être détruite entièrement. À sa place, on a construit un supermarché. Les adeptes de ces pratiques d'exploration urbaine n'ont pas attendu les anglo-saxons pour aller fouiller, à leur risque et péril, les souterrains urbains, les complexes industriels abandonnés, les entrepôts portuaires délaissés, les hôpitaux désertés, faisant fi des dangers. Ce que nous appelons désormais urbex existe depuis des siècles, exactement dans le même esprit. Oui, les pionniers de la spéléologie franchissaient des siphons inconnus dans le noir total, avec une bougie et un briquet abrités sous leur casquette. Les fous de ce calibre ont disparu, et les équipements ont été perfectionnés depuis, fort heureusement. Plutôt que d'aller à Detroit ou Eisenhüttenstadt, allons nous perdre dans d'étranges endroits plus proches à un jet de pierre de Paris, où les mauvaises rencontres sont peu probables et où des haies de broussailles dissimulent parfois des merveilles très inattendues.
Jonk, c'est un pseudonyme.
Absolument, c'est mon nom d'artiste. Je m'appelle Jonathan, mais je suis passé par la case graffiti, on va dire, et je voulais pas forcément... À l'époque, j'avais un vrai métier, et je voulais pas forcément que les gens associent mon activité de graffeur à mon métier, donc j'avais choisi d'exercer sous ce nom-là.
J'ai eu de vous un livre paru chez Artaud, intitulé « Urbex Monde ».
Urbex Monde, c'est ça.
Où vous dites avoir exploré 1500 sites abandonnés dans le monde entier.
Là, on est plus vers 2000, mais c'est, à la limite, maintenant, ça m'intéresse plus de donner de nom parce que ça fait un peu collection et c'est pas du tout...
C'est pas le but.
C'est pas le but du tout, non.
Vous avez promené vos grosses godasses dans le monde entier.
C'est vrai que je suis les 46. C'est...
Au Spitzberg, par exemple, dans un endroit assez fascinant qui s'appelle Pyramiden, qui était une base russe et un site minier. Le Spitzberg, c'est quand même à 75 degrés de latitude.
Absolument, hein. C'était une expédition folle. C'était un voyage vraiment pour visiter donc Pyramiden, qui est un ancien campement soviétique, donc une mine de charbon qui a fermé il y a bien longtemps. Mais donc il reste énormément de traces de la vie justement soviétique. Et moi, l'imagerie soviétique, c'est quelque chose qui me passionne. Hein, j'adore vraiment. Il y a les statues de Lénine, notamment. Il y a plein de banderoles, plein de fresques.
Ouais.
Voilà, ça c'est extraordinaire de tomber voilà, année. Quand on est là-bas, on est vraiment projeté 40 ans en arrière, en pleine URSS. Et moi, ça me passionne. Hein.
Vous êtes allé aussi à Taïwan, en Namibie, dans plein d'endroits improbables. Et nous, nous sommes allés modestement à 75 km de Paris, dans un endroit qui s'appelle très exactement « On ne le dira pas ».
Exactement.
C'est la règle.
C'est la règle, ouais. En fait, c'est un lieu où j'aime bien revenir régulièrement. Et si on commence à diffuser le nom, on ne sait pas si voilà, peut-être c'est un lieu qui va devenir populaire, plein de gens vont venir et ça va attirer l'attention et il va être amené à être fermé. Et moi, j'aimerais bien, ça fait 10 ans que je viens ici et j'aimerais bien venir encore pendant 10 ans. Et ce ne sera pas forcément le cas si le lieu devient connu. Quoi.
L'urbex, puisque c'est notre sujet, c'est une contraction anglaise de l'exploration urbaine.
Voilà.
C'est votre activité professionnelle.
Voilà, c'est ça. Bon, moi, je me considère comme photographe de lieux abandonnés. Après, on rattache ça à un mouvement qui s'appelle l'urbex. Donc pour moi, enfin, l'exploration urbaine, donc urban exploration, exploration urbaine, pour moi, c'est exactement ce que je faisais il y a une dizaine d'années quand j'allais dans les catacombes interdites de Paris, quand j'allais dans le métro la nuit explorer voilà, les stations fantômes ou aussi quand j'allais sur les toits de Paris. Ça, c'était vraiment, pour moi, à l'époque, je faisais vraiment de l'exploration urbaine. C'est-à-dire, j'explorais la ville. Alors après, on a assimilé à ce mouvement la visite de lieux abandonnés. Effectivement, on rattache ça à l'urbex, mais c'est pas forcément la définition de mon activité.
Et la pratique existe, Timothy Hanem, avant qu'on ne forme le mot urbex.
Oui, bien sûr, bien sûr. De tout temps, les gens...
Pour ne rien vous cacher, j'en ai fait.
Oui.
Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
Eh bien, moi non plus. qu'en fait, moi, je fais ça depuis la fin des années 90. J'ai commencé à faire ça quand j'étais enfant, dans les années 80. Et au début des années 2000, mon site s'appelait Glockland Photo d'endroits abandonnés. Et c'est vrai que c'était un terme un peu long. Et quand le mot urbex est apparu, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple d'expliquer que voilà, c'est une exploration urbaine et que tout le monde sait ce que ça veut dire maintenant. Mais à la base,
ça économise des caractères.
Ça économise des caractères. Et sur une couverture de livre, c'est plus simple à rentrer. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est de la photo d'endroits abandonnés, tout simplement. Au départ, c'était vraiment pour revivre les émotions des films comme les Goonies ou Stand By Me, que j'ai vu dans les années 80 quand j'étais petit. Je voulais revivre un peu ces émotions d'aventure, d'exploration et de découverte de trésors aussi. Et donc j'ai commencé à visiter des maisons, mais comme tous les gamins le font en fait, soit tout seul, soit avec des amis, pour se faire un peu peur.
Dans quel type d'endroit sommes-nous, jusqu'auquel vous nous avez guidés, Jonc?
Donc là, on est en fait dans les logements de fonction des gardiens d'une prison qui a été démolie depuis. Mais donc voilà, c'était les logements des matons. Alors on est sur un espèce de bâtiment de plein pied avec des petits appartements mitoyens, une dizaine d'habitations, je dirais. Et on est à 200 mètres d'une ancienne prison. Une prison dont on voit encore toute l'enceinte extérieure, donc avec les barbelés. 5 mètres de hauteur de grillage, de rangées de barbelés pour avoir un chemin de ronde tout autour, avec des arbres maintenant qui dépassent du chemin de ronde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez intéressant de voir ça, qu'avant il n'y avait évidemment aucun arbre pour avoir une visibilité maximale. Maintenant il y a des arbres qui dépassent du grillage, c'est intéressant. Et donc la prison a été démolie il y a longtemps, il y a plus de 10 ans.
Et on l'avait construite quand?
Alors la prison, c'est un ancien sanatorium qui date des années 50, qui a été converti en prison plus tard, quand il y a eu moins besoin de sanatorium.
Et plus besoin de prison,
voilà. Donc voilà. Il y a vraiment la nature qui revient. Moi, ce qui me plaît plus dans cet univers-là, c'est vraiment la nature qui revient. C'est le sujet central de mes photos, c'est montrer que quoi que l'homme abandonne, la nature le reprendra, et qu'à terme, à terme, en fait, le lieu disparaîtra. Et ça pose une question sur qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quelle relation on doit avoir avec la nature. Et ça, c'est vraiment... le sujet central de mon travail.
Allons-y. Nicolas Offenstadt, vous êtes historien, maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est ça?
Ouais.
Et vous avez pratiqué ce sport, l'urbex, bien avant que le mot soit formé.
Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça remonte à mon rapport à l'histoire et au passé. C'est-à-dire que j'ai toujours conçu l'histoire, y compris l'histoire médiévale, en lien avec les lieux. Et même quand je faisais ma thèse d'histoire médiévale sur les négociations de paix au Moyen-Âge, j'allais voir des endroits où il y avait une petite chapelle médiévale, où il y avait des traités qui avaient été signés. Je sais qu'elle était disparue, c'était un chantier, il y avait des caterpillars, il y avait des grues, mais j'avais envie de voir le lieu.
Ce sont les lieux qui nous parlent aussi.
Bien entendu. Et d'ailleurs, un certain nombre de mes travaux ont été motivés par ce que j'ai vu sur les lieux. Alors oui, dans les années 90, on le sait, c'était la pleine désindustrialisation. C'était la fermeture des dernières mines, notamment pour le nord de la France. Et donc du coup, je travaillais dans les archives à Lille à ce moment-là, et je profitais de chaque moment pour aller voir toutes ces usines qui fermaient, parce que, comme historien, je faisais une forme de passé-présent entre mon travail dans les archives et un monde, hein, celui qui entourait l'île, hein, donc le Nord et même au-delà, le Pas-de-Calais, où il y avait tant de choses, hein, qui marquaient la fin d'une histoire, l'abandon. Donc au début, je regardais de l'extérieur. Finalement, à l'époque, on pouvait rentrer dans les corons, il y avait des corons entiers qui étaient abandonnés, ces maisons de mineurs. Et puis comme historien, il faut le dire, à l'époque, ça m'avait déjà beaucoup marqué, c'est resté très longtemps dans ma mémoire sans que j'en fasse rien. J'avais visité des usines aussi abandonnées, pas seulement des carreaux de fosse. Et dans une brasserie, j'avais trouvé des archives, et toutes les archives de la brasserie, et je trouvais ça étonnant, alors que je sortais des archives de Lille les plus ordonnées, hein, donc archives départementales du Nord, avec la carte, l'organisation, la demande, la cote. Et puis en sortant, en faisant quelques kilomètres en voiture, je tombais sur des archives dont plus personne ne voulait, hein, des comptabilités d'entreprises, des dossiers.
Sur le sol
Absolument, par terre.
Une fenêtre complètement écroulée, du lierre qui est complètement repris. Il fait hyper sombre, voilà, dans la pièce dans laquelle on se trouve, parce que le lierre obstrue complètement les vitres. avec quelques belles peintures de gars du coin. Donc là, on voit le lierre qui est rentré par la fenêtre, qui reprend le plafond petit à petit. Donc là, il a quasiment traversé la pièce pour revenir vers la porte d'entrée. On voit d'ailleurs un nid, là. Il y a carrément un nid. Je l'avais jamais vu, celui-là. Donc ça, c'est intéressant. Même les animaux ont repris... c'est pas que la flore, c'est aussi la faune. Donc, voilà, le petit balage par le papier peint un peu kitsch. Là, on est sur un beau motif végétal des années 60, je dirais.
Ah oui, on n'en trouve plus, des comme ça.
Ça, c'est collector, hein, clairement. Voilà, on parlait de débris. Voilà, là, on a un peu
des
tout
partout. Tessons de carrelage. Voilà. Ça a été abandonné quand, disiez-vous ?
Alors, je pense qu'il a été abandonné au début des années 2000.
Ça va vite, là, des
grands. Ça va très vite. Bah, c'est aidé par les gens qui viennent et qui cassent les carreaux. À partir du moment où les carreaux sont cassés, l'humidité rentre et le pire du pire, c'est l'infiltration d'eau. Ça crée vraiment tout.
Nous quittons momentanément les logements de fonction des matons de cet ancien centre de détention et traversons toute l'île de France de part en part.
Tu veux que je te porte un truc ?
Puis, quelques barbelés.
Ouais, c'est bien levé. C'est bon.
Pour retrouver Timothy Hanem, esthète urbexeur lui aussi, dans l'un de ses lieux de prédilection, le manoir des Trois Colonnes.
D'ailleurs, c'était un pigeonnier. C'est un ancien pigeonnier, ouais. Et c'est devenu la bibliothèque. Et là, c'était les écuries, en fait, ils ont rasé la toiture. Et quand on est rentré, c'est là qu'il y avait le premier château, qui s'appelait le château Rose, qui datait de 1815, et qui a été rasé il y a quelques années. Et maintenant, il reste ce manoir-là.
C'est ce qui me frappe dans tous ces lieux abandonnés que je visite, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas des historiens de métier, pas des archivistes, qui ont un rapport au patrimoine et qui, dans le fond, visitent parce que ça leur parle du passé. Ça leur parle parfois de leur passé, s'ils vivent aux alentours, et qui, du coup, ont l'envie par Internet, par les blogs, par les réseaux sociaux, de faire vivre ces lieux qu'ils ont vus. Et donc, je trouve que un des éléments intéressants de l'urbex, c'est la volonté patrimoniale de certains. Donc, il n'y a pas que les historiens, heureusement, d'ailleurs, s'il y avait que les historiens, ce serait triste, mais il y a des gens qui, parfois, de manière un peu désordonnée, amateurs, veulent quand même sauver ces bribes de passé.
Timothy Hanem, vous avez emmené à la campagne,
c'est
quelque
ça.
Part, on ne dira pas où parce que ça se fait pas. Et vous donnez des surnoms aux lieux que vous explorez. Celui-là, vous avez rebaptisé le domaine des Trois Colonnes.
C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, il y a derrière le manoir où nous sommes, il y a un grand lac artificiel. Et sur ce lac, il y a une petite île sur laquelle ont été construites au début du siècle, en même temps que le manoir, trois colonnes en béton pour faire une fausse ruine, façon un peu but de Chaumont. Et quand je suis venu visiter ce lieu pour la première fois en 2011, on s'est promené autour du lac et j'ai vu ces colonnes. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un immense domaine, il y a trois colonnes, boum, domaine des Trois Colonnes. Aussi simple que ça.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un grand manoir à l'anglaise qui a été construit au début du XXe siècle par un industriel qui a fait fortune dans le cuivre, qui a inventé les compteurs de taxi et qui était mécène dans plein d'autres domaines. Et il voulait une grande propriété à 1h30 de Paris. Et donc, il s'est fait construire ce grand manoir façon anglais parce qu'il aimait beaucoup les styles d'architecture anglaise parce que c'est là qu'il avait fait ses études. Et comme il avait fait ses études notamment à Oxford où il y a un magnifique cloître, je pense que c'est pour ça qu'il est ici. Il a aussi reproduit dans le manoir un très joli cloître dans lequel
on est sous une galerie voûtée en ogive.
Exactement, c'est ça. Il y a un côté un peu vraiment religieux comme on pourrait trouver dans les grandes facultés universitaires anglaises. Ouais. Il reste encore un peu de ferronnerie un peu partout. Il y a une entrée qui fait un peu elfique avec les petits motifs végétaux à l'entrée qui est toujours là. Ça, c'est magnifique. Donc en fait, quand on visite ce manoir et qu'on commence par le cloître, on entre vraiment dans un autre monde, quoi. On n'arrive pas directement dans le salon, la cuisine, on commence par le cloître. Et c'est une petite promenade comme ça qui part en angle droit et on peut voir le petit bassin parce qu'il en reste au milieu avec les arbres qu'on poussait ici depuis 70 ans.
Et une baignoire en inox aussi.
Une baignoire, voilà, qui
a poussé.
Et c'est vraiment, il y a beaucoup de charme dans cet endroit-là, surtout que ce matin avec la belle lumière. Et c'est vraiment une invitation à la promenade tranquille, quoi. On ne visite pas ça en quatrième vitesse. On se promène tranquillement et on tourne. Et du coup, voilà, la visite va progressivement en découvrant les différentes pièces du manoir.
Et cette belle maison, qui est quand même dans un état de déshérence, il n'y a pas de doute, a été occupée assez peu de temps finalement.
Oui, parce qu'en fait, il a fait construire vers 1908-1910, enfin l'industriel. Il a commencé à habiter en 1913, et en fait, en 1920-21, il me semble, il a été donc élu sénateur dans le Rhin, et il est parti. Donc en fait, il a vraiment occupé cet endroit très peu de temps. Et donc c'est pour ça que juste après, il a revendu à une autre famille qui s'est installée. Un couple et leurs quatre enfants, ils étaient juifs, et durant la guerre, ils ont été chassés par les nazis. La moitié de la famille est partie en déportation, l'autre a réussi à se cacher, s'enfuir. Et après la guerre, quelques membres restants de la famille sont venus, avec notamment la petite Rebecca, qui avait 7-8 ans à l'époque. Et ils sont revenus voilà, à la fin de la guerre pour constater un peu que les Allemands avaient pillé le manoir, mais également les Américains et les résistants français. Et tout le monde s'était servi dans le manoir en pillant, en volant les tableaux, les meubles, comme beaucoup de châteaux français qui ont été pillés par les nazis durant la guerre. En fait, ça, donc il y a eu beaucoup de pillages et de dégradations aussi, j'imagine. Et quand ils ont vu l'état du site, ils se sont dit « bon, bah, on va partir ailleurs ». Et le manoir a du coup été mis en vente. Et plusieurs propriétaires se sont succédés, mais sans jamais rénover le manoir. C'est pour ça qu'en fait, il est dans cet état-là depuis 70 ans.
Alors le repérage, c'est vraiment la première étape, et à la limite, moi j'ai envie de dire que c'est l'étape qui me plaît le plus, parce que c'est un peu une chasse au trésor. C'est beaucoup de recherches sur des vues satellites, zoom au maximum. On essaie de trouver des toits éventrés ou des jardins qui ont l'air pas entretenus. Alors maintenant, avec Street View, c'est magique, hein, parce qu'on clique sur une rue et ça nous met une clôture qui peut être complètement écroulée ou qui peut être complètement envahie par la végétation, ce qui nous confirme ou pas que le lieu est abandonné. Donc ça, voilà, je passe des heures, voire des jours à scruter des vues satellites à Google ou autre. Il y a Yandex pour tout ce qui est pays un peu à l'est.
Et vous vous dites parfois, tiens, il y aurait quelque chose.
Voilà, ça a l'air abandonné. Et donc je repère des points comme ça. Et puis quand j'ai couvert une zone et que j'estime que j'ai suffisamment de points à aller vérifier, j'y vais. Alors cette zone, ça peut être l'Oise. Ça peut être la Normandie, ça peut être l'Arménie. Avant le Covid, je préparais un voyage en Arménie. J'ai passé 6 jours à scruter toute la superficie habitée de l'Arménie. Bon, heureusement, il y a beaucoup de montagnes, mais j'ai repéré environ 300 points. Ces 300 points, je les ai mis après sur une carte. J'ai enlevé ce qui était un peu trop isolé, tout seul dans un coin. Et j'ai gardé, on va dire, la cinquantaine de points qui m'avaient l'air les plus prometteurs. J'ai mis en place un itinéraire. Je devais y aller 2 mois après le début du premier confinement. Et après, j'avais plus qu'à prendre un billet d'avion, à y aller, donc louer une voiture et vérifier si c'était bien ou pas abandonné, si c'était intéressant ou pas en photo. Parfois, potentiellement, sur ces 50 lieux, j'aurais fait 0 photo. Potentiellement, je serais tombé sur 50 pépites. Donc on ne sait pas, c'est ça aussi qui fait tout le charme de cette activité-là, c'est qu'en fait, on repère sur une vue satellite, on ne sait pas forcément ce que ça va donner en vrai. J'ai passé 3 semaines au Japon pour visiter des lieux abandonnés. Bon voilà, je sais que je ne vais pas retourner de sitôt 3 semaines au Japon, donc j'ai vraiment fait énormément de recherches. Essayer vraiment que les points que j'ai sélectionnés ils soient vraiment abandonnés, ils soient vraiment intéressants à photographier. Et du coup, c'est un voyage extraordinaire parce que j'ai visité des temples, des parcs d'attractions, des hôtels, des parcs aquatiques, enfin, tout un tas de lieux qui étaient vraiment et abandonnés et intéressants à photographier. Donc, c'était vraiment un voyage extraordinaire. C'est vraiment cet aspect-là qui me plaît beaucoup. Hein.
Qui vous a donné le tuyau ?
C'est un ami en 2011 qui visitait aussi des endroits abandonnés qui m'a dit écoute, on connaît un manoir au sud de l'Île-de-France qui devrait te plaire. On y va samedi prochain, est-ce que ça te dit d'être avec nous ? J'ai dit ouais, d'accord. Et je suis venu visiter avec le lieu avec eux. Et c'était vraiment une impression complètement folle de visiter ça en 2011 parce qu'à l'époque, on visitait surtout beaucoup d'endroits industriels à l'abandon, quelques pavillons, quelques usines, ce genre de choses. Mais de trouver un immense manoir comme ça, avec une quinzaine de chambres, un sous-sol, un cloître, le lac avec l'île des colonnes, et puis surtout qu'à l'époque il y avait les écuries et le premier manoir qui a été rasé il y a quelques années, c'était vraiment une exploration d'une journée entière, quoi. En 2011, on pouvait accéder au deuxième étage, voire au grenier. C'était un peu acrobatique, mais on pouvait, et maintenant, c'est vraiment impossible. Et monter au premier étage, ça devient très dangereux. Donc je pense qu'à terme, lieu finir va finir par s'effondrer sur lui-même. Ce qui n'est pas totalement sûr non plus, parce que comme il a été bien construit, en fait, il tient toujours debout. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse tempête pour qu'il tombe, en fait.
Souvent, le sol est jonché de vitres cassées, de documents divers.
Ouais.
Et on a l'impression souvent que les lieux ont été abandonnés précipitamment et qu'on n'a pas cherché à rapatrier ce qu'il y avait.
Bah c'est très souvent le cas. Là, on voit là, tout, là, à nos pieds, on a des feuilles, on a du lierre, on a des bouts de bois, du verre, des gravats. Et c'est vrai que quand un lieu est abandonné, il n'est pas gardienné. Rapidement, il y a des gens qui viennent récupérer ce qu'il y a à récupérer, qui viennent s'amuser à casser. Moi, une fois, je suis venu et j'ai croisé un groupe de jeunes qui cassaient les carreaux un par un pour s'amuser. Ils cassaient donc un carreau, ils avançaient un carreau. Voilà. Et donc, bon, moi, ça me rend fou. D'ailleurs, ces jours-là, je les ai engueulés, hein, les petits jeunes. Il y a aussi des gens qui viennent taguer, qui viennent peindre. Alors, des choses plus ou moins intéressantes. Hein. Ça va du smiley un peu inutile à la magnifique peinture, bah, comme on verra tout à l'heure. Et moi, ça, je suis très sensible au graffiti. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené au lieu abandonné, hein, c'est les graffitis.
C'était l'ancien bureau, en tout cas industriel.
On arrive à attribuer les pièces à leur fonction.
Quand je suis venu au tout début, je ne savais pas quelle était la fonction des pièces. Et à force de chercher des cartes postales anciennes et des documents un peu partout sur Internet, on voit des photos qui ont été prises dans le manoir une fois qu'il était construit, comme une sorte de des photos un peu de promotion, on va dire. Et il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai pu attribuer à chaque pièce une fonction. Et surtout, j'ai pu commander un magazine édité en 1913 qui présente un plan du rez-de-chaussée du manoir, un plan magnifique. Et on a l'impression de voir un plan d'un château façon Seigneur des Anneaux, quoi. Et donc là, on voit que c'était l'ancien bureau. Là, sur la droite, c'était la salle de musique.
Il est vaste, hein.
Ah oui, c'est très grand. Donc, il y avait pratiquement chaque pièce possède une cheminée. Le bureau qui était juste là. Là, on avait la cheminée qui était sur la droite.
Donc, manifestement, les parquets ont été arrachés partout.
Ah, partout. Dès 2011, il y avait...
Afin de récupération.
Oui, des récupérations, ou même du bois de chauffage, j'imagine. En fait, c'est difficile de savoir quand les choses ont été volées ou pillées. C'est souvent les gens du coin qui servent les premiers, en fait. Ils savent qu'il y a ça à cet endroit-là. On peut récupérer du parquet, on peut le revendre, et hop, ça part comme ça. C'est vrai que nous, une des règles de l'urbex, c'est de ne rien toucher, rien voler. Mais on sait pertinemment que nous, on prend rien, mais le lendemain, quelqu'un passera derrière nous et prendra des choses, se servira. Donc, voilà.
Il y a un code de conduite dans l'urbex.
Absolument, il y a un code de conduite qui est très précis et qui est d'ailleurs maintenant international. Il a été traduit en chinois, en japonais, on le voit dans toutes les langues, c'est à peu près la même chose.
Il est vraiment écrit ?
Oui, tout à fait, il est écrit sur les sites. Alors évidemment, il n'y a pas la constitution mondiale des urbexeurs. En gros, il y a 4 ou 5 règles quand on fait de l'urbex. La première, c'est de ne pas divulguer l'adresse publiquement sur Internet en particulier, parce que si vous divulguez l'adresse du lieu que vous avez visité, évidemment, le risque théorique, c'est que beaucoup de gens se rendent sur ces lieux et donc du coup finissent par les abîmer, finissent par en faire une forme d'autoroute touristique. Et d'ailleurs, les urbexeurs les plus attentifs à cette règle donnent des pseudonymes. Par exemple, une gare abandonnée, ils vont appeler l'Orient Express, alors qu'évidemment, ça peut être une gare de Normandie ou d'ailleurs. Mais le pseudonyme sert à masquer le lieu pour qu'on puisse quand même donner un nom identifiable sans que les gens s'y rendent. Première règle. Deuxième règle, ne jamais casser pour rentrer, parce que l'urbexeur n'est pas ni un pilleur ni un briseur de monuments, donc il faut essayer de trouver un moyen de rentrer sans casser.
Ça sous-entend que quelqu'un est passé avant pour commettre l'effraction.
Absolument, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est le côté ambigu, parce que il faut bien que quelqu'un casse. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on a l'habitude de fréquenter des lieux à plusieurs reprises. Ils sont parfois rebouchés, refermés par les autorités ou par les propriétaires. Et puis, il y a bien quelqu'un qui le casse pour qu'on puisse rentrer de nouveau. Donc, effectivement, c'est évidemment une manière un peu hypocrite. En tous les cas, c'est une règle. Une fois qu'on est à l'intérieur, on ne touche à rien, on ne bouge rien, on ne déplace rien, on respecte le lieu.
évidemment. C'est, donc l'urbexeur, encore une fois, est un visiteur. Hein, c'est pas ni un pilleur, ni même un artiste. D'ailleurs, certains urbexeurs trouvent que ceux qui font des tags ou des graffitis ou de l'art urbain, dans le fond, ça pose problème parce que ça change le lieu. Même si ça peut être artistiquement génial, c'est une forme de transformation. Une des règles importantes suivantes de l'urbex, c'est de ne rien emporter. On ne prend jamais rien avec soi. C'est-à-dire qu'on est censé laisser le site exactement dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Alors c'est une règle que moi je ne respecte pas pour deux raisons. D'abord parce qu'à mon avis elle ne fait pas vraiment sens puisque beaucoup de ces lieux abandonnés en réalité sont très habités. Vous avez des visiteurs urbexeurs bien sûr, mais vous avez aussi parfois des sans-domicile fixe, des sans-logis qui trouvent un refuge permanent ou temporaire dans ces lieux. Donc du coup évidemment ils l'aménagent à leur manière. Hein, j'en ai vu qui avaient vraiment fait des petites maisonnettes à l'intérieur d'une immense usine. Ça m'avait frappé, c'était dans la Ruhr, en Allemagne de l'Ouest, à l'époque de l'Allemagne unifiée. Et donc, du coup, c'est une immense usine Krupp. Puis, dans une petite cabine, qui devait être sans doute une cabine de direction d'un engin, il y avait un sans-logis qui avait aménagé hein, sa maison. Et puis, vous avez des gens qui viennent pour des tas de raisons. Vous avez des jeunes qui viennent faire la fête. Vous avez des gens qui viennent prélever des métaux. Vous avez mille raisons, en fait, de trouver des gens qui se promènent dans les lieux abandonnés. Donc, ces gens-là, par définition, dans leur vie, même à l'intérieur de ces lieux, ils vont déplacer des choses, parce qu'ils sont pas urbexeurs, ils connaissent pas le code, et c'est pas leur problème, ils viennent pour d'autres raisons, selon d'autres registres. Et donc, du coup, d'une certaine manière, moi, j'aime bien les penser comme des lieux vivants, dans le fond. Puis, il y a une autre raison d'historien, qui est pour moi plus fondamentale, c'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup de ces lieux, pas tous, mais beaucoup vont être détruits. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites avec les archives dont vous savez à 99% qu'elles vont disparaître? Et parfois, ces archives sont intéressantes. Hein. C'est des archives qui sont inédites. C'est des archives manuscrites. Hein. Moi, j'ai trouvé des tas de documents personnels, que ce soit des lettres, que ce soit des journaux de bord, que ce soit des archives publiques, que ce soit même des procès. Donc, il y a tout ce qu'on veut dans ces lieux abandonnés. Et donc, du coup, sachant que leur démolition, leur disparition est proche, moi, j'ai pas d'état d'âme, sincèrement, à emporter des documents qui me paraissent utiles pour l'historien. Et d'ailleurs, je les garde pas pour moi hein, comme un trésor. J'en fais état dans mes travaux, dans mes livres. Hein, ou sur les réseaux sociaux pour en faire quelque chose.
La cuisine est en bas, la cuisine est dans le sous-sol.
Ah oui.
Et là, on voit le monte-charge avec lequel les plats étaient amenés et préparés ici.
Ah ouais, c'est sophistiqué.
Ah oui, et les plats, donc là, on est dans la pièce, je crois que c'est l'office. Les plats étaient préparés, enfin, étaient amenés ici, étaient préparés, et ensuite amenés dans la cuisine, qui est la pièce qu'on vient de traverser.
D'accord.
Qui est vraiment tout un. Donc on est vraiment dans Downton Abbey, quoi.
Imagine des domestiques en livrée.
Complètement, ouais.
Avec une petite chaîne.
C'est bien possible. Et de ce que j'avais lu sur Internet à l'époque, le sénateur et sa femme et ses deux enfants employaient 30 à 40 personnes sur place.
Ah oui.
Donc c'est des ordres en permanence. C'est des ordres de grandeur qui paraissent complètement fous aujourd'hui, mais qui étaient un peu la norme à l'époque.
Il y avait très haute bourgeoisie.
C'est de la haute bourgeoisie. Il y a le jardinier, la toiture, tout l'entretien des chambres. Enfin, c'était un travail de fou, mais qui était la norme à l'époque. On avait 30 personnes qui travaillaient sous nos ordres. D'autant plus que la personne, comme c'était un industriel avec beaucoup d'argent, enfin, c'était budget illimité, quoi, presque. D'abord au sous-sol, voir la cuisine. Ensuite, on ira peut-être à l'étage, éventuellement.
Ouais. Comment je vais ajuster ma lampe frontale.
D'accord. Ah oui, pour la cave, c'est mieux d'avoir une petite lampe pour la cave.
À consulter vos livres. Donc, je me suis demandé pourquoi, lorsqu'on abandonne un château, éventuellement un beau château, avec un intérêt architectural réel, pourquoi on laisse le piano?
Alors, c'est le cas pour les pianos, c'est le cas aussi pour les voitures. Moi, je pense que c'est des objets très lourds. Quand on part peut-être parfois dans la précipitation, on ne peut pas forcément emmener un piano, encore plus quand il est à queue.
Sont difficilement transportables.
Voilà, très difficilement transportables. Et c'est le cas aussi, je suis tombé un nombre incalculable de fois dans des granges ou dans des terrains sur des véhicules de collection magnifiques. Je suis tombé une fois sur une Rolls-Royce, hein, même dans deux fois. Une fois en France, une fois en Belgique. Et voilà, donc c'est incroyable de se dire que la personne elle est partie en laissant une Rolls soit dans le jardin, soit dans le garage. Mais c'est triste, hein, mais Alors après, pour le coup...
Oui, ça cache toujours une tragédie quelconque.
Voilà, voilà, exactement. Mais pour le coup, bon, moi, je ne me plains pas, parce que des photos de piano dans des lieux abandonnés, il y a souvent un cachet... Bon, l'objet en lui-même a un cachet fort. Alors quand il est abandonné et qu'il est un peu usé, moi, je trouve que le passage du temps ajoute du cachet. D'ailleurs, c'est ce que je cherche dans...
Bon, là, c'est pas sans une certaine mélancolie, quand même.
Ah, tout à fait, ouais. Y a une poésie. Moi, je parle plutôt de poésie, mais... la poésie des ruines, de toute façon, ça date pas d'hier, hein, c'est même très très vieux. Et il y a une poésie claire, et pour moi, cette poésie, justement, elle vient du temps, hein, c'est le temps qui passe, le temps qui marque les choses, et c'est à la fois magnifique. Il y a une esthétique claire et une philosophie derrière qui est très très forte et qui est évidente. Hein, c'est ce qui me plaît. Alors, au-delà de l'aspect esthétique qui me fait vendre des photos, il y a l'aspect philosophique, et c'est hyper fort. Ouais.
Je vous suis.
Oui, allez, on va avancer.
C'était des taches de sang, des feuilles d'érable. Fais gaffe. Hein.
C'est la salle de bain principale.
C'est une très belle baignoire carrelée. Ils adoraient les baignoires, ces gens-là.
Ah oui, dans ce manoir, il y avait pratiquement chaque chambre avait sa salle de bain, sa baignoire. Et c'est assez fou. Ouais. Pour l'époque, il y avait un luxe incroyable. On voit que tout est carrelé avec de la pâte de verre.
Ouais.
C'est magnifique. Et donc la baignoire est là, qui est toute carrée. Et en face, à l'époque, avant de la végétation.
Des petites loges, un peu comme dans des bains de vapeur.
Ah, complètement, oui. C'était vraiment... on se croit dans un bain turc ou quelque chose comme ça. Une ambiance un peu orientale qui est très jolie. Et en face, directement, il y a une grande baie vitrée qui donne sur le lac. Enfin, à l'époque, maintenant, il y a la végétation, donc on ne voit plus. Mais le lac est juste en face. Donc, en fait, on sortait de la baignoire et on avait une vue sur le lac qui était magnifique. Donc, tout ça, c'était réfléchi, pensé. Et
la vie devait être agréable.
Ah oui, je pense que la vie était très agréable ici. Oui, oui. Et il reste encore, quand même, la cuvette, le réservoir des toilettes qui est toujours là.
La chasse d'eau.
La chasse d'eau, voilà. La chasse d'eau qui n'a pas été cassée après toutes ces années. Et c'est vraiment joli, ces pattes de verre, en fait. Et selon les différentes pièces, il y a différentes couleurs. Il y a du jaune.
C'est du verre, c'est pas de la céramique.
Alors, c'est la pâte de verre. Dans ce qui est écrit dans le magazine de 1913, ils appellent ça de la pâte de verre. Je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, c'est vraiment joli. Et donc, malheureusement, voilà, il y a quelques tags qui gâchent un peu la vue, mais bon.
C'est à prendre ou à laisser.
C'est à prendre ou à laisser, exactement. Voilà, c'est ça. Et, ouais. Et juste après, c'est la salle de. C'est la chambre du couple. C'est assez dangereuse, faire attention un petit peu.
Pourquoi ?
Il y a un petit
coup de tranchée pas génial ici.
Donc on va faire un peu attention.
Gros trou.
Là où c'est humide, c'est un peu dangereux. Mais... Par exemple, en 2011, on pouvait passer ici tranquillement, il y avait un couloir. Maintenant, ça s'est complètement effondré. Donc il y a certaines parties du manoir qui sont de moins en moins accessibles. On peut y aller quand même, on sent le tour de la pièce.
Pour poursuivre par là ?
Voilà.
De l'exploration urbaine, c'est que c'est souvent dangereux.
Parfois, ouais. Ça dépend.
Et c'est toujours interdit.
Alors,
à peu près.
Alors, à peu près, oui. C'est...
Comment est-ce qu'on appelle une infraction que ça peut constituer ?
C'est une violation de propriété privée. Après, moi, donc sur le nombre de lieux que j'ai visités, bon, je me suis fait attraper des dizaines de fois. Hein, j'ai eu affaire à des gardiens, des agents de sécurité, la police. Donc, mais j'ai toujours pu dire, voilà, je suis rentré par là, vous voyez que c'est pas cassé, je me trouve ici, donc j'explique le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'à l'endroit où je me suis fait frapper. Les gens voient que j'ai rien cassé, et donc
on vous laisse en paix.
Ce qui fait que voilà, on me laisse tranquille systématiquement.
Ouais. On peut faire de mauvaises rencontres aussi.
Il y a trois dangers majeurs, je dirais. Le premier, c'est les mauvaises rencontres. Donc là, j'en ai fait plein, mais si, enfin plein. Je suis tombé sur des squatteurs, des voleurs de métaux, beaucoup. Hein. Ça m'est arrivé d'arriver sur un lieu où j'entends des coups de masse. Et en fait, c'est quelqu'un qui cassait les murs pour voir s'il y avait des tuyaux derrière en cuir à voler. Donc la mauvaise rencontre, voilà, j'ai jamais eu de problème. Bon, après, il faut dire que j'ai un trépied de 5 kilos dans les mains, donc peut-être que ça dissuade. Mais sinon, le deuxième risque, c'est de tomber dans un trou, hein, clairement. Souvent, surtout quand on fait des photos, le risque, c'est de reculer pour avoir le cadre et de pas regarder ce qu'on...
Et boum.
Et là, ça peut être très grave. Hein, ça, quand on... Dans un lieu industriel, quand ça fait 10 étages, qu'il n'y a pas forcément des rambardes en très bon état...
C'est un sport qui fait des morts.
Ouais, exactement. J'ai un copain qui est passé à travers un plancher, qui s'est fait perforer la cage thoracique par un pied de chaise. Bon, et lui, il s'en est sorti, mais ça aurait pu être très très grave.
Et vous pratiquez seul?
Ça se vit vraiment différemment quand on est vraiment immergé seul, vraiment à l'affût du moindre bruit. Alors dès qu'on est quelqu'un qui va marcher dans une autre pièce, on va l'entendre marcher. C'est vraiment pas du tout la même expérience d'être seul ou d'être accompagné. Alors la règle, c'est de dire où on va, de dire à quelle heure on revient. Bon, voilà, moi, à partir du moment où je suis avec quelqu'un, j'ai tendance à pas trop dramatiser, mais surtout je fais hyper attention. Mais je pratique de moins en moins seul, parce que clairement, je suis conscient des risques.
Je vous suis.
Oui, allez, on va avancer. Donc là, attention, vous mettez les pieds quand même, parce qu'il y a un gros trou.
Le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est, Nikola Hoffenstadt, c'est presque un paradis de l'exploration urbaine. Je crois que vous avez exploré plus de 300 sites en ex-RDA.
Oui, j'ai encore augmenté parce que ça, j'y vais régulièrement. Oui, absolument, un paradis.
Il y a encore des choses ?
On trouve tout le temps des choses. On trouve tout le temps des choses. Pour vous donner un exemple, mon dernier séjour, c'est cet été en Allemagne de l'Est. Et donc, je suis rentré dans une immense usine textile dans la banlieue de Leipzig, en Saxe. Il y avait encore toute une partie de ce qu'ils produisaient à la fin de la RDA. Il y avait notamment des bonnets pour l'armée espagnole. Il y avait des vestes très recognitives, des vestes imperméables des ouvriers est-allemands. Vous aviez encore toute la marchandise qui était là. Hein, donc ça, c'était il y a quelques mois. Et évidemment, je pourrais encore vous donner d'autres exemples. Je suis rentré dans une maison pendant ce même séjour qui est en Saxe-Anhalt, dans les régions minières de Mansfeld, dans une maison où il y avait tout. Hein, les habitants étaient partis sans doute il y a quelques années. Et là aussi, il y avait des archives. Et il y avait notamment quelque chose d'extraordinaire qui est très émouvant et qui est très typique de la RDA, avec la correspondance entre la petite fille de la maison et sa correspondance soviétique. Hein, parce que l'idée était de faire des liens, évidemment, dans le monde de l'Est entre tous les pays, notamment le grand frère, protecteur et évidemment aussi censeur, hein, soviétique. Et donc, du coup, on faisait des jumelages entre les enfants. Donc, vous voyez, encore aujourd'hui, vous trouvez aussi bien des archives personnelles, hein, que du matériel de production en ex-RDA. Et on peut continuer, hein, évidemment, je pense, encore des années. Et c'est donc, effectivement, entre guillemets, un paradis de l'urbex. Pourquoi ? Il faut rappeler juste d'un mot ce qui s'est passé lorsque l'Allemagne s'est unifiée en 1990. Il y a une agence qui s'appelle la Treuhand qui a été chargée de transformer en gros toutes les usines socialistes d'État.
De privatiser.
Exactement.
Les unités de production de l'Est.
Exactement, elle s'appelle la Treuhand. Donc elle avait, et c'est colossal, hein, elle avait des milliers d'usines. Hein, et elle avait l'équivalent d'un portefeuille, entre guillemets là aussi, de 4 millions d'emplois. Donc c'était colossal. Et évidemment, beaucoup de ces usines fonctionnaient selon le modèle du bloc de l'Est, hein, selon le modèle d'une économie socialiste. Donc elles étaient évidemment pas forcément transformables rapidement, parce qu'on voulait que ça aille vite, en économie de marché. Et donc du coup, on en a
liquider purement et simplement, hein, des milliers, et quand je dis des liquidations de milliers d'usines, ça veut dire, hein, des dizaines de milliers de bâtiments qui sont abandonnés, parce que certaines avaient 25-30 bâtiments. Donc vous imaginez, toutes n'ont pas pu être prises, surtout que l'économie est-allemande, évidemment, était en partie absorbée par l'Ouest, donc il y a eu énormément de transformations. En plus, les marchés économiques de l'ex-bloc de l'Est ont disparu. Donc dans le fond, hein, toute cette économie est partie à volo, hein, de l'économie socialiste, et du coup, on en a les traces jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez une idée de la capacité de la prison dans laquelle nous sommes ?
Non.
Parce que c'est vaste, ça fait beaucoup de gardiens de prison, là.
Oui, bah, je pense qu'il y avait une douzaine de logements. Alors, c'était pour les familles à chaque fois, hein, c'était pas que pour les gardiens. Mais là, je sais que quand on va voir sur les vues satellites vraiment anciennes, il y avait trois bâtiments de 3-4 étages. Donc, je pense pas que c'était une très très grande prison, surtout qu'à la base, c'était censé être un sanatorium, hein, comme on disait. Donc, je pense qu'il y avait, vraiment pas beaucoup d'accueil. J'imagine pas qu'il y ait plus que 100 ou 200 prisonniers. Hein.
Ça, c'est menaçant. Hein.
Ah oui, faut faire attention où on met les pieds. Il y a partout des planches avec des clous. Alors, ça m'est arrivé 50 fois qu'un clou me traverse la semelle. Bon, faut faire attention.
Et là, ce qui est. Un très beau tuyau de douche presque neuf.
Voilà, ouais. Alors, ça, ouais. Donc là, on a un ancien. Comment on appelle ça? Un programme télé.
Je crois que c'est télé 7 jours. Voilà.
Bon, souvent, ça peut donner des indications sur l'époque de l'abandon. Et donc là, si on essaie de trouver la couverture, alors là, on voit pas grand-chose, mais... Boulevard des Stars. Bon, alors on a Michou, Geneviève de Fontenay...
Ils sont tous morts.
Offre spéciale Noël jusqu'au 31 décembre 2003. Donc voilà, 2003, donc on a... Le dernier bâtiment de la prison a été démoli... je crois en 2005, donc voilà, c'est cohérent. Voilà, 2003. Allez, on va continuer.
C'est là où nous sommes.
C'est là où on est.
Donc c'est une photo.
Une photo du hall.
L'héliogravure.
Du hall du château. Et on voit très bien sur la photo là. La grande cheminée blanche du hall, avec l'entrée, avec les sortes de petits vitraux un peu art nouveau, des tableaux, beaucoup de petites poteries.
Il y avait l'électricité ici ?
Oui, bien sûr, il y avait l'électricité. Bah, dans la mesure où c'est une personne qui avait popularisé l'usage du cuivre,
oui.
Je pense qu'il était plutôt bien fourni à ce niveau-là. Et donc on voit que même dans le hall, il y avait un espèce de secrétaire, une table à l'entrée, comme une espèce de petit bureau devant la cheminée. Avec une petite lampe Art Nouveau qu'on voit des fois dans les émissions de vente de produits aux enchères.
C'est un tirage qui fait 30 sur 45 à peu près.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Vous l'avez trouvé où ?
Ben ça, j'ai trouvé sur eBay. C'est des personnes qui vendent des vieux portfolios.
Et l'annonce identifiait le lieu ?
Ouais, l'annonce, il disait que dans ce portfolio, il y avait une cinquantaine de photos, dont 10 de tel château, 10 d'un autre, 15 d'un autre, et une dizaine de celui-là.
Vous avez pris tout ?
Et j'ai pris le tout. C'est un vrai voyage dans le temps, parce qu'on se dit que la photo a été prise à cet endroit-là, et on y est, nous, aujourd'hui, 100 ans plus tard. Donc c'est assez fou, quoi.
C'est moins bien rangé aujourd'hui.
Maintenant, c'est un peu moins bien rangé, ouais. Devant ça, on peut avoir que de la tristesse ou de la nostalgie, quoi. Mais ça fait partie de... C'est une des composantes essentielles de l'urbex, en fait. On visite un lieu, on sait comment il était avant, et du coup, il y a une espèce d'effet de nostalgie, de tristesse, qui est inhérent à ça, quoi. Et en même temps, on se dit, on peut pas le rénover, c'est lieu, c'est trop tard.
Est-ce que c'est si mélancolique que ça, Timothy Hamel ?
Pas tant que ça, en fait, c'est beau aussi, c'est un beau voyage dans le temps. Et ça m'arrive de temps en temps, c'est rare, mais je rêve que je suis dans cet endroit-là, dans la nuit, et que je le visite. Et quand il est habité il y a 100 ans, parce qu'à force comme c'est la 10e ou 12e fois que je viens sur place, je connais par cœur cet endroit, et des fois je rêve que je suis à l'intérieur, et que je rencontre l'industriel, les domestiques, et je visite, et je suis à la fois fasciné et en même temps, c'est une époque complètement différente de la nôtre. C'est particulier.
Quelle est la nature du lien entre l'urbex et la photographie ?
Les urbexeurs ne font pas forcément de photos. il y a les urbexeurs qui sont contents de se balader.
Il n'y a pas beaucoup d'exceptions.
Ah si, 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 si. Ah, si, si. Même, c'est même la majorité, en fait. Hein. Il y a des gens qui font ça pour vraiment pour l'adrénaline, pour la sensation d'essayer de rentrer, escalader, visiter un lieu qu'ils n'ont pas le droit de visiter. Et parmi ceux qui font des photos, certains se contentent, mais pareil pour la grande majorité, de faire des photos au téléphone portable. C'est pas du tout une activité de photographe. Pour moi, c'est une activité d'explorateur, d'aventurier. Mais tout le monde ne fait pas des photos. Et au sein de ceux qui font des photos, dont on est très peu, à essayer de faire même des belles photos. Et après, des gens dont c'est le métier, on est encore moins.
Il y a un chapitre dans un de vos livres, Nicolas Hoffenstadt, qui s'intitule « Le porno des ruines ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que avec la désindustrialisation massive, non pas seulement dans les pays de l'Est, mais aussi en France, aux États-Unis, en Angleterre, il y a tout un ensemble de photographes qui sont allés documenter ces ruines récentes. C'est le cas notamment aux États-Unis dans la Rust Belt, hein, dans la ceinture industrielle, et en particulier à Détroit. Et ces photos, évidemment, elles pouvaient contraster avec la réalité parce que c'était très belle. Il y avait de très grands photographes qui sont allés photographier ces ruines. Parmi les Français les plus célèbres et qui ont fait des albums magnifiques, c'est Yves Marchand et Romain Meffre, hein, qui ont été parmi ceux qui ont, en quelque sorte, illustré la photographie de lieux abandonnés de manière assez magnifique. Et donc, cette qualité esthétique, hein, la profondeur aussi de ce qu'on pouvait voir à travers les photos de ces grands photographes, a fait que certains se sont dit, dans le fond, c'est quand même problématique, hein, d'esthétiser un monde qui est celui de la souffrance, dans le fond, du chômage, de la fermeture des usines. Et donc, il y a un côté voyeuriste, comme quand vous regardez un film porno, vous ne s'agissez pas, vous regardez les autres, évidemment. Un côté aussi consumériste, hein, c'est-à-dire qu'on multiplie les photos. Donc, du coup, cette expression, le porno des ruines, hein, ruin porn, en anglais, a été en quelque sorte jeté à la face de ceux qui s'intéressaient aux ruines, de ce qui les photographiaient, en disant, mais dans le fond, hein, vous êtes obscène comme des gens qui regardent du porno, vous regardez la ruine des autres, hein, et vous la consommez.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que c'est faux de jeter comme ça l'opprobre sur l'ensemble de ces photographes, parce que ce qui m'a frappé dans beaucoup des urbexeurs ou de ceux que j'ai rencontrés, c'est que dans le fond, au-delà de l'esthétique photographique, si son photographe, c'est bien le moindre des choses de faire de l'esthétisme, hein, dans le fond, certains ont un rapport très dense au lieu. Et je vous donnais l'exemple, hein, de ceux qui ont été parmi les plus grands, hein, qu'ils sont toujours, de cette photographie des lieux abandonnés, qui sont Marchand et Meffre. À la fin de leur album sur Détroit, il y a un texte d'un historien pour expliquer ce qui s'est passé.
Il n'y a plus aucun mobilier, apparemment. Il y a une petite table.
Voilà, donc ça dépend des appartements. On va avoir des cuisiniers, on va avoir des lits, on va avoir des armoires. La plupart des choses ont été récupérées, mais il reste quand même par-ci par-là quelques objets qui nous font vraiment comprendre qu'on était dans des bâtiments d'habitation. Et là, on est dans une ancienne cuisine, avec encore... Là, on voit trois générations de papier peint, avec le dernier qui est vraiment incroyable, avec des hamburgers, des canettes, des cornets de frites. C'est vraiment... Là, on est hyper kitsch. Et l'étage d'en dessous, la couche d'en dessous, avec des grappes de raisin. Pareil, on est vraiment... on peut faire une anthologie du papier peint dans ces maisons. Il y a des centaines de papier peint incroyables. Voilà, on peut faire le tour... Vous voyez que c'est vraiment le lierre là, qui en passant en dessous décroche les dalles qui tombent petit à petit. Alors là, on voit parfaitement.
Mais fatalement, ça tombera.
Ah, fatalement, ça tombera. Pour moi, c'est la fin immuable de chaque bâtiment abandonné. C'est que. D'ailleurs, souvent, moi, je présente mes photos chronologiquement. Souvent, je montre un bout de lierre qui rentre par une fenêtre. Donc, au début, le lierre qui reprend une façade. Après, le lierre qui rentre par une fenêtre. Après, la nature qui repousse à l'intérieur. Et après, le lieu qui commence à s'écrouler. Et après, ce que je montre pas, mais ce que j'explique avec des mots, c'est que une fois que le lieu commence à s'écrouler, l'étape d'après, c'est l'écroulement total, l'enfouissement. Et ça, c'est le principe d'une ruine, hein, c'est enfin, d'une ruine des sites archéologiques.
L'engloutissement.
L'engloutissement, c'est qu'une fois que le site est englouti, on a sur un terrain, on va dire, une étendue de terre, quelle trace on a laissé? Qu'est-ce qui reste de nous, en fait? Et là, c'est hyper fort parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça pose vraiment la question de notre passage sur Terre et de notre relation avec la nature qui clairement est plus forte que nous, qui était là avant nous, qui sera là après nous. Et le problème, c'est que on est nombreux à pas se rendre compte suffisamment qu'on doit se montrer plus humble face à la nature. Et je pense que ça, c'est une illustration forte de cette force de la nature.
Je me demande si les lieux abandonnés ne racontent pas mieux leur histoire
que ceux qu'on a volontairement préservés. À condition d'avoir un large contexte.
Je suis pas loin d'être d'accord avec vous, parce que c'est vrai que dans les lieux qu'on visite de manière habituelle, hein, soit des châteaux ou des usines mémorialisées devenues musées, vous avez toujours un parcours déjà. C'est-à-dire que vous êtes guidé. Généralement, le parcours est intelligent, évidemment, on cherche à ce que le visiteur connaisse le mieux possible le lieu, mais dans le fond, il y a quand même l'idée que l'histoire va vous être racontée, et que vous savez tous, quand on a fait des visites guidées dans des châteaux, ou dans des lieux de culte, des monastères, ou que ce soit, on sait très bien qu'il y a toujours des portes fermées. Il y a toujours des lieux où vous n'allez pas, on ne sait pas pourquoi, s'ils sont en réfection, si c'est pour X raisons. Donc dans le fond, votre parcours est toujours limité. Ce qui est un peu fou en urbex, et assez fascinant, c'est que vous êtes maître du lieu. Vous pouvez aller où vous voulez. Le seul limite, c'est le danger et la capacité physique à accéder au lieu. Et donc, du coup, effectivement...
C'est souvent dangereux et c'est toujours interdit, à peu près.
C'est très souvent interdit, c'est très souvent dangereux. Il faut être donc prudent. Donc, l'urbex, ça demande une certaine méthodologie, une approche, tout un ensemble de conditions physiques et de préparation, comme n'importe quelle forme d'expédition, dans le fond. Mais ensuite, vous avez cette ivresse de liberté. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les cabines de machines où vous n'auriez jamais eu dans tous vos rêves la possibilité de rentrer parce qu'elles étaient dangereuses, c'était en activité. Vous rentrez dans les bureaux de gens qui étaient des directeurs d'école, qui étaient des directeurs d'institutions variées, ecclésiastiques parfois même. Et donc du coup, vous avez une forme effectivement de visite, d'une intensité qui est inégalée quand vous faites de l'urbex, surtout quand l'institution que vous visitez ou le lieu a été relativement préservé, ce qui arrive quand même assez souvent.
Là, on a un magnifique balcon avec un sol en mosaïque, qui est vraiment très beau. Et c'est vraiment chouette parce qu'on a une très belle vue sur le cloître, par lequel on est rentré tout à l'heure. Il y a un peu de vent, je sais pas si on... Là, on peut voir les arbres. On a de belles vues sur les arbres qui poussent dans le cloître, qui sont là depuis 70 ans, qui a une chance de... Même si on voulait rénover le lieu, il faudrait dire couper les arbres ou les enlever, mais ça paraîtrait...
Ouais, peine perdue. Possible,
quoi. C'est vraiment peine perdue. Et ici, on a vraiment une jolie vue sur le manoir. Quoi. C'est ce que j'aime bien généralement dans les manoirs à l'anglaise et même les jardins à l'anglaise, où c'est comme des bouts de chaumont, ça serpente. Il y a toujours des petites surprises au coin à chaque fois des arbres, au coin des bosquets.
Voyage en urbex, en toute clandestinité. Avec Jonk, urbexeur, Timothy Hanem, urbexeur, Nicolas Offenstadt, médiéviste et urbexeur. Bibliographie, notamment avec les publications de nos intervenants, liens et podcasts sur franceculture.fr. Documentation, Annelise Signoret, recherche musicale, Antoine Vuilloz. Coordination, Johanna Bedeau, attachée de production, Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Archivina, Isabelle Fort-Rendu. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par François Teste.